L'art d'aimer de Ovid. Chant premier. Romain, si quelqu'un de vous ignore l'art d'aimer, qu'il lise mes vers, que cette lecture l'instruise, et qu'il aime. L'art, comme la rame et la voile, fait voguer les vaisseaux agiles. L'art guide la course d'un char. L'art aussi doit guider l'amour. Automédon excellait à conduire les chars et à manier les rênes flexibles. Tiphys gouvernait le vaisseau des Argonautes, et moi, que Vénus a choisi pour le mentor de son fils chéri, l'on m'appellera le Tiphys et l'Automédon de l'amour. L'amour est, je le sais, d'une nature peu traitable. Plus d'une fois il fut hostile à mes vœux, mais c'est un enfant. Son âge est souple et facile à diriger. La lyre de Chiron sut réduire le jeune Achille, et par cet art paisible, il dompta son caractère impétueux. Le héros qui fit trembler tant de fois ses compagnons et tant de fois ses ennemis, tremble, dit-on, à l'aspect d'un vieillard chargé d'années, et ses mains, dont plus tard Hector devait sentir la puissance, reçurent avec docilité le châtiment d'un maître. Chiron fut précepteur d'Achille. Moi, je le suis de l'amour. Tous deux enfants redoutables, tous deux nés du sang d'une déesse. Cependant, le taureau courbe son front sous le joug qu'il subit. Le coursier généreux ronge le mort et frémit en vain. Je réduirai l'amour, bien que son arc me blesse le cœur et qu'il secoue sur moi sa torche enflammée. Mais plus il me blesse, plus sa flamme me consume. Plus je dois être ardent à me venger de ses atteintes. Poète menteur, je ne dirai point, ô Apollon, que les leçons dont je vais être l'organe, je les ai reçues de toi-même. Ce n'est pas non plus le chant des oiseaux qui m'inspire, et, comme Hésiode, paisant ses troupeaux dans tes vallées, ô Ascra, je n'ai point vu Clio ni ses sœurs. L'expérience est mon guide. Écoutez sa voix dans la voix du poète. Chantre de la vérité, je t'invoque, mère des amours. Viens à mon aide. Loin d'ici, bandelette légère, insigne de la pudeur. Loin d'ici, robe jalouse qui nous voilait à moitié le pied de nos matrones. Plaisir facile, larcin pardonné, c'est vous que je chante. Et toute intention criminelle est bannie de mes vers. Jeune homme qui songeait à vous enrôler sous les drapeaux de l'amour, cherchez d'abord l'objet qui doit le faire naître. Sachez ensuite fléchir le cœur de celle qui vous a plu. Puis, faites en sorte que votre amour soit de longue durée. Voilà quel est mon plan. Telle est la carrière que je veux parcourir. Tel est le but que je me propose d'atteindre. Vous êtes libre de tout lien. C'est l'instant favorable. Choisissez une amie à qui vous puissiez dire « Toi seule me plaît. N'attendez pas qu'elle vous vienne du ciel sur l'aile officieuse des zéphyrs. C'est avec vos propres yeux qu'il vous faut la chercher. Le chasseur sait bien en quel lieu il doit tendre ses filets aux cerfs. Il sait de même où est la retraite du sanglier farouche. L'oiseleur connaît les broussailles propices à ses gluaux, et le pêcheur quelles sont les eaux les plus poissonneuses. Vous aussi qui songez à former un attachement durable, apprenez d'abord les endroits fréquentés par les jeunes filles. Je ne prétends pas qu'en allant à la recherche vous mettiez à la voile et parcouriez des contrées lointaines. Laissez Persée ramener son Andromède du fond des Indes brûlée par le soleil et le berger phrygien aller en Grèce ravir son Hélène. Rome seule vous offrira des femmes aussi belles et en aussi grand nombre et vous trouverez qu'elle seule réunit dans son sein toutes les beautés du monde entier. Autant le Gargare étale d'épis dans ses plaines, autant les vignes de Métime portent de raisins, autant la mer compte de poissons, la forêt d'oiseaux tapis sous la feuillée et le ciel d'étoiles, autant notre Rome compte de jeunes beautés. Et Vénus a fixé son empire dans la ville de son cher aîné. Aimez-vous les grâces fraîchement épanouies d'une adolescente? Une vierge digne de ce nom viendra s'offrir à vos regards. Préférez-vous une beauté dans la fleur de la jeunesse? 1000 jeunes femmes vous séduiront, et vous n'aurez que l'embarras du choix. Peut-être un âge plus mûr et plus rassis vous agrée davantage. Oh, alors croyez-moi, les saints en sont plus nombreux. À l'époque où le soleil entre dans le signe du lion, parcourez lentement les promenades, tantôt à l'ombre du portique de Pompée, tantôt sous ses voûtes majestueuses revêtues de marbre précieux, élevées par les libéralités du Fils et enrichies des dons de la mère. Allez aussi sous cette galerie ornée de tableaux anciens et qui doit à Livy son existence et son nom. Vous y verrez représenter les Danaïdes, conspirant la mort des fils infortunés de leur oncle, et leur père barbare, une épée nue à la main. N'oubliez ni les fêtes d'Adonis que pleura Vénus, ni les sacrifices célébrés le septième jour par le juif de Syrie. Que le temple élevé à Memphis en l'honneur de la génisse parée de bandelettes de lin reçoive aussi vos hommages. Isis inspire souvent la même tendresse qu'elle portait à Jupiter. Le forum lui-même, qui le croirait, est favorable à l'amour, et plus d'une passion a pris naissance dans des débats tumultueux du barreau. Près des eaux jaillissantes de la fontaine Appienne et du temple de marbre de Vénus, plus d'un jurisconsulte s'est laissé prendre à l'amour, et n'a pas su mettre à profit pour lui-même la surveillance qu'il exerce dans l'intérêt d'autrui. Là, le plus disert oublie souvent son éloquence. Une autre affaire le préoccupe, et c'est sa propre cause qu'il est forcé de plaider. Du haut de son temple, voisin de ses lieux, la déesse rit de cet homme qui, patron tout à l'heure, n'est plus maintenant qu'un humble client. Mais c'est surtout au théâtre qu'il faut tendre vos filets, là s'offrant foule les occasions favorables à vos désirs. Là, vous trouverez des femmes qui vous plairont, qui répondront à vos badinages, qui se laisseront aborder et que vous voudrez posséder. Comme on voit, les fourmis aller et venir en long bataillon, chargées du butin qui doit leur servir de nourriture, ou bien encore les abeilles voler au milieu des bosquets et des herbes odorantes et recueillir le suc des fleurs et du thym. Ainsi, les femmes, élégamment parées, accourent et se pressent à nos spectacles. Là, souvent, leur foule nombreuse a tenu mon choix en suspens. Elles viennent pour voir, mais plus encore pour être vues. Là, l'innocente pudeur trouve son écueil. C'est toi, ô Romulus, qui mêla le premier au jeu public les soucis de l'amour, lorsque l'enlèvement des Sabines donna une compagne à chacun de tes guerriers jusqu'alors sans épouse. La toile alors ne tombait point sur un théâtre de marbre précieux, et le safran liquide ne rougissait pas encore la scène. De simples branchages, dérobés au bois du mont Palatin, formaient l'unique ornement d'un théâtre grossier, et le peuple était assis sur des gradins de gazon, la chevelure ombragée de feuillages cueillis au hasard. Déjà, chacun regarde autour de soi et marque des yeux la jeune fille qu'il convoite. Il n'a pour confident de ses projets que son cœur seul. Et pendant qu'aux accords presque sauvages du chalumeau toscan, un danseur frappe trois fois du pied la terre en cadence au milieu d'applaudissements, en ce temps-là sincère, le roi donne à son peuple le signal attendu pour saisir sa proie. Soudain, ils s'élancent avec des cris qui trahissent leur dessein, et déjà ils jettent leurs mains avides sur les jeunes vierges. Pareil aux colombes qui fuient toutes tremblantes à l'approche de l'aigle, pareil à la brebis née d'hier qui fuit à l'aspect du loup, les Sabines sont frappées de terreur à la vue de ces hommes qui fondent sur elles en désordre. Pas une seule dont la pâleur ne couvre le visage. Et si la crainte est la même, elle a chez chacune d'elles une expression différente. Les unes s'arrachent les cheveux, les autres restent privées de sens. Celles-ci gardent un morne silence. Celles-là appellent en vain leur mère. D'autres poussent des sanglots, d'autres sont abîmées dans la stupeur. Celle-ci est immobile et celle-là prend la fuite. Vierges destinées à perdre bientôt ce titre, elles sont entraînées et plus d'une paraît encore embellie par sa frayeur. S'il en est une qui, dans sa lutte opiniâtre, résiste à suivre son ravisseur, alors le guerrier presse sa proie sur son sein et l'emporte dans ses bras. Pourquoi, lui dit-il, flétrir par des larmes ces beaux yeux? Ce que ton père est pour ta mère, moi, je le serai pour toi. Ô Romulus, que tu devinas bien la récompense qui convenait à tes guerriers, et que je serais volontiers ton soldat au même prix. Depuis ce temps, le théâtre est resté fidèle à son antique coutume, et son enceinte est encore un piège tendu à la beauté. Ne manquez pas non plus d'assister aux luttes de nobles coursiers. Le cirque, où se tient un peuple nombreux, doit à cet égard satisfaire votre curiosité. Là, vous n'aurez pas besoin de faire parler vos doigts pour dévoiler vos secrets, ni d'épier les signes interprètes des pensées de votre belle. Asseyez-vous près d'elle, côte à côte et le plus près possible. Rien ne s'y oppose. Le peu d'espace vous force à la presser et lui fait, heureusement pour vous, une loi de le souffrir. Cherchez alors un motif de conversation. Parlez d'abord de choses générales, demandez-lui avec un air d'empressement à qui appartiennent les chevaux qui vont courir, et sans balancer, prenez le parti de celui, quel qu'il soit, auquel il s'intéresse. Mais lorsque les images d'ivoire des dieux passeront avec un pompeux appareil, applaudissez à Vénus, votre protectrice. S'il arrive qu'un peu de poussière ait volé sur le sein de votre maîtresse, que votre main se hâte de l'enlever. N'y aurait-il qu'une ombre de poussière? Attaquez-vous à cette ombre. Tout prétexte est bon pour vous montrer officieux. Cette robe descend trop bas? Relevez-la, afin qu'elle ne touche plus la terre qui la souille. La récompense est près du service, et peut-être vous laissera-t-on jeter un regard sur une chambre digne d'être vue. Prenez garde encore aux spectateurs qui sont assis derrière elle, de peur qu'un genou trop avancé ne touche à ses douces épaules. La moindre attention suffit pour gagner un cœur faible. Combien se sont applaudis d'avoir arrangé un coussin d'une main prévenante. Combien encore ont su captiver une belle, soit en agitant l'air autour d'elle avec un éventail, soit en glissant l'escabelle sous son pied délicat. Le cirque offrira toutes ses ressources à votre amour naissant, aussi bien que le forum, cette triste arène qui semble n'être ouverte qu'au souci de la chicane. Souvent, en effet, l'amour y est descendu pour combattre. Là, tel qu'il regardait les blessures d'autrui, s'est senti blessé lui-même. Et tandis qu'il cause, qu'il parie pour tel ou tel athlète, qu'il touche la main de son adversaire et que, déposant le gage du pari, il s'informe du parti qui a vaincu, un trait rapide lui perce le cœur. Il pousse un gémissement et, d'abord simple spectateur du combat, il en devient une de ses victimes. Quel beau spectacle que ce simulacre d'une bataille navale, où César mit aux prises les vaisseaux des Perses avec ceux des Athéniens. Jeunes hommes et jeunes filles accourent des bords de l'une et l'autre mer, et l'univers s'était donné rendez-vous dans Rome. Qui de nous, dans cette foule immense, n'a pas trouvé un objet digne de lui plaire? Hélas, combien alors furent brûlés d'une flamme étrangère? Mais bientôt César doit ajouter au monde soumis à sa dernière conquête. Borne de l'Orient, vous serez nos tributaires. Nation de Parthe, tu seras puni. Réjouissez-vous, manne des soldats de Crassus, et vous, étendards qui flottez à regret dans les mains barbares, agitez-vous. Voilà votre vengeur. Ses premiers coups ont révélé un général consommé. Enfant, il conduit une guerre bien supérieure aux forces d'un enfant. Faible mortel, ne demandez pas l'âge des dieux. Chez les Césars, la valeur devance les années. Elle marche plus vite que le temps, et s'indigne des entraves qui voudraient retarder son développement. Hercule, encore enfant, étouffait de ses mains deux serpents. Dès son berceau, il fut digne de Jupiter. Et toi, Bacchus, enfant comme Hercule, que tu fus grand lorsque ton Tirse apparut dans l'Inde épouvantée. Toi aussi, jeune prince, tu combattras et tu vaincras sous les auspices et avec le courage de ton père. Tu dois à un nom si grand les coups d'essai d'un héros, et maintenant prince de la jeunesse, tu le seras un jour aussi des vieillards. Sois le vengeur de l'injure faite à tes frères, sois le défenseur des droits de ton père. Ton père, le père de la patrie, t'as mis les armes à la main, tandis que ton ennemi a violemment arraché le trône et l'auteur de tes jours. Mais tes traits seront sacrés et ses flèches seront maudites. Sous tes étendards combattront la justice et la religion. Que tes rivaux, déjà vaincus par leur mauvaise cause, le soient encore par tes armes, et qu'aux richesses du Latium, mon héros ajoute les dépouilles de l'Orient. Mars, son père, et toi, César, son père aussi, soyez ces dieux tutélaires. Ces dieux, l'un de vous l'est déjà, l'autre bientôt doit l'être. Tu seras vainqueur, j'ose le prédire. Mes vers seront des chants de triomphe, et pour célébrer ta gloire, ma lyre n'aura pas de chant trop sublime. Prêt à combattre, tu animeras ton épée par des paroles que j'aurai dictées. Puisse-t-elle être digne de ton courage. Je peindrai le Parthe en déroute, et les Romains présentant leur poitrine aux traits que lance en fuyant le cavalier ennemi. Ô Parthe, toi qui fuis pour vaincre, que laisseras-tu à faire aux vaincus? Mais pour toi, désormais, Mars n'a plus que de sinistres présages. Il viendra donc ce grand jour où tu paraîtras, ô toi, le plus beau des guerriers tout resplendissant d'or, sur un char conduit par 4 chevaux blancs. Devant toi marcheront les chefs, chargés de fer, et désormais impuissants à chercher un refuge dans la fuite. Les jeunes garçons, mêlés aux jeunes filles, te salueront de leurs cris d'allégresse, et ce jour portera la joie dans tous les cœurs. Alors, si quelqu'une de ces jeunes beautés vous demande les noms des rois captifs, et quels sont les pays, les montagnes et les fleuves qui sont représentés, trouvez une réponse à toutes ces questions. Sachez même les prévenir. Et ce que vous ignorez, affirmez-le avec assurance, comme si vous le saviez parfaitement. Ce dieu couronné de roseaux, c'est l'Euphrate, cet autre à la longue chevelure azurée, c'est le Tigre. Ceux-là supposaient que ce sont les Arméniens. Cette femme représente la Perside, patrie du fils de Danaé. Cette ville s'élevait naguère dans les vallées de l'Achéménie. Celui-ci est un chef, celui-là en est un autre. Nommez-en par leur vrai nom, et s'il est possible ou s'ils vous sont inconnus, par quelque nom qui puisse leur convenir. Les festins sont aussi favorables aux entreprises des amants. Outre des vins exquis, ils vous offrent des délices d'une autre espèce. L'amour a la face empourprée et enlace souvent de ses bras enfantins le front puissant de Bacchus. Et quand la liqueur vermeille a imbibé les ailes de Cupidon, il reste appesanti et comme enchaîné à sa place. Bientôt, il est vrai, il secoue ses ailes humides et s'envole. Mais malheur à celui dont le cœur est atteint de cette brûlante rosée. Le vin dispose les esprits, elle les rend plus propres à s'enflammer, et le chagrin s'enfuit, vaincu par de copieuses libations. Alors naît la gaieté, alors le pauvre se croit dans l'abondance, et la douleur et les soucis disparaissent de son front déridé. La franchise, si rare dans notre siècle, ouvre les cœurs. Le dieu les a franchis de tout artifice. Là, souvent, les jeunes filles ont captivé notre âme, et Vénus dans le vin et le feu dans le feu. Défiez-vous de la clarté trompeuse des lumières. Pour prononcer sur la beauté, la nuit et le vin sont de mauvais conseillers. Ce fut au grand jour, à la clarté des cieux, que Paris vit les trois déesses lorsqu'il dit à Vénus « Vous l'emportez sur les deux autres. » La nuit voile les défauts et sauve les imperfections. Toute femme est belle à cette heure. Consultez le jour sur la richesse des diamants, sur l'éclat de la pourpre. Consultez-le de même sur les grâces de la figure et sur la beauté du corps. Compterai-je toutes ces réunions féminines dont votre amour saura profiter? J'aurais plutôt compté les grains de sable de la mer. Citrèche Baïs et ses rives couvertes de voiles et ses eaux d'où s'élèvent de tièdes vapeurs sulfureuses? Plus d'un baigneur, en s'éloignant, atteint d'une blessure nouvelle, s'est écrié. Cette eau n'est pas aussi salutaire qu'on le dit. Hors de l'enceinte de la ville, voici le temple de Diane, ombragé par les bois. Voici cet empire acquis par le glaive et par des luttes sanglantes. Diane est vierge. elle est les traits de l'amour. Aussi que les blessures n'a-t-elle pas faites. Combien n'en fera-t-elle pas encore? Jusqu'ici, dans ces vers inégaux, ma muse vous a indiqué les lieux où vous devez tendre vos filets et choisir une maîtresse. Maintenant, je vais vous dire par quel art vous devez gagner le cœur de celle qui a su vous charmer. Qui que vous soyez, quelque climat que vous habitiez, amant, prêtez-moi une attention docile. Peuple, prête une oreille amie. Je vais réaliser mes promesses. Persuadez-vous d'abord qu'il n'est pas de femme qu'on ne puisse vaincre. Et puis, tendez vos filets. Le printemps n'entendra plus le chant des oiseaux. L'été, celui de la cigale, le chien du ménal fuira devant le lièvre avant que la beauté résiste aux tendres sollicitations d'un amant. Celle-même, que vous pourriez croire intraitable, ne demandera pas mieux que de se rendre. Un plaisir dérobé a des attraits pour les deux sexes. L'homme s'est mal déguisé. La femme est plus habile à cacher ses désirs. Ne faisons aucune avance, et bientôt vaincue, les femmes joueront le rôle de suppliantes. Dans la vaste prairie, la génisse mugit pour appeler le taureau. La cavale hennit à l'approche de l'ardent étalon. Chez nous, la passion marche avec plus de mesure. Elle n'est pas aussi furieuse. Le feu qui nous brûle ne nous emporte pas hors des lois de la nature. Parlerai-je de Biblis éprise pour son frère d'un amour incestueux et qui expie courageusement son crime en s'étranglant? Mira aima son père d'un amour qui n'avait rien de filial. Arbre, aujourd'hui, elle cache sa honte sous l'écorce qui s'est refermée sur elle. Les larmes qui coulent de son tronc odorant nous servent de parfum, et le nom qu'il porte est encore celui de cet infortuné. Un jour, dans les fraîches vallées de l'Ida, couronnées de forêts touffues, paissait un taureau blanc, l'orgueil du troupeau. Une légère tache noire était imprimée sur son front, entre les cornes, et c'était la seule. Le reste du corps avait la blancheur du lait. Les génisses de Gnos et de Sidon se disputèrent à l'envi ses caresses. Pasiphae se réjouissait de devenir son amante et regardait d'un œil jaloux les génisses qui lui semblaient les plus belles. Je ne dis rien que de connu. La Crète aux 100 villes, la Crète si peu scrupuleuse à mentir, ne pourrait le nier. Pasiphae, d'une main inhabile à ses soins grossiers, dépouillait les arbres de leurs feuilles naissantes et cueillait l'herbe la plus tendre de la prairie pour les présenter, dit-on, aux taureaux qu'elle aimait. Elle suivait les troupeaux, marchait sans s'arrêter, sans songer à son époux. Et Minos eut pour rival heureux l'amant des génisses. Pasiphae, pourquoi te parer de ces habits précieux? Celui que tu aimes sent-il le prix des richesses? Pourquoi ce miroir qui t'accompagne dans tes excursions sur la montagne? Insensé, pourquoi soigner ainsi ta chevelure? Consulte ton miroir, il t'apprendra que tu n'es pas une génisse. Mais que ne donnerais-tu pas pour voir naître des cornes sur ton front? Si Minos t'est cher encore, renonce à ton amour adultère. Si au contraire tu veux le tromper, elle choisit du moins un autre amant. Mais non, elle fuit la couche nuptiale et erre de forêt en forêt comme une bacchante possédée du dieu d'Aoni. Oh, combien de fois, regardant une génisse avec colère, elle s'écriait « Pourquoi sait-elle lui plaire? Voyez comme sur l'herbe tendre elle bondit à ses côtés. L'insensée, je gage qu'elle croit se rendre ainsi plus jolie. » Elle dit, et déjà elle ordonne qu'on entraîne la génisse loin du troupeau. Elle condamne l'innocente à courber sa tête sous le joug ou dans un sacrifice, à tomber immolée au pied des autels. Puis elle touche avec une joie cruelle les entrailles de sa rivale. Plus d'une fois, elle offrit aux dieux de semblables présents, et tenant dans sa main cet odieux trophée, « Allez, disait-elle, allez maintenant plaire à mon amant !» Tantôt, elle en vit le sort d'Europe, tantôt, celui d'Io. L'une, parce qu'elle fut génisse, l'autre parce qu'un taureau la porta sur son dos. Cependant, elle trompa, à l'aide d'une vache faite de bois d'érable, son sauvage amant, et le fruit des caresses qu'elle en reçut dévoila ses amours. Si cet autre crétoise eût su résister aux poursuites de Thieste, mais qu'il est difficile à une femme de plaire à un seul homme. Phébus, s'arrêtant au milieu de sa carrière, n'eût point ramené son char et ses coursiers aux portes de l'aurore. La fille de Nisus, pour avoir coupé à son père le fatal cheveu, tomba, dit-on, de la poupe d'un vaisseau et fut métamorphosée en oiseau. Agamemnon n'échappa sur terre à la fureur de Mars et sur mer à celle de Neptune que pour périr sous le poignard de sa cruelle épouse. Qui n'a donné des pleurs aux amours de Créuse, de Corinthe? Qui n'a maudit cette marâtre couverte du sang de ses enfants? Les yeux de Phénix, privés de la lumière, versèrent des larmes. Et vous, coursier d'Hippolyte, vous déchirâtes épouvanté le corps de votre maître. Finée, pourquoi crever les yeux de tes fils innocents? Le même supplice retombera sur sa tête. Telles sont les femmes, égarées par un amour effréné. Plus ardentes que les nôtres, leurs passions sont aussi plus furieuses. Courage donc, ne désespérez pas d'être vainqueur. Sur 1000 femmes, à peine en trouverez-vous une qui vous résiste. Qu'elles accordent une faveur ou qu'elles la refusent, les femmes aiment qu'on la leur demande. La rejettent-elles? Ce refus ne doit point vous alarmer. Mais pourquoi un refus? Un plaisir nouveau n'a-t-il pas toujours ses attraits? La moisson du champ d'autrui nous semble toujours plus belle que la nôtre, et le troupeau du voisin toujours plus fécond. Mais avant tout, connaissez la suivante de celle que vous courtisez. C'est elle qui doit vous en rendre l'accès plus facile. Informez-vous si elle a l'entière confiance de sa maîtresse, si elle est la complice discrète de ses plaisirs. Pour la corrompre, n'épargnez ni les promesses, ni les prières. Vous triompherez sans obstacle si telle est sa volonté. Qu'elle choisisse à la manière des médecins l'instant où l'esprit de sa maîtresse, libre d'inquiétude, est plus accessible. Cet instant favorable est celui où tout semble lui sourire, où la gaieté brille dans ses yeux, comme les épis dorés dans un champ fertile. Le cœur, lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il n'est point resserré par la douleur, tend à s'épancher. Vénus, alors, pénètre jusqu'en ses plus profonds replis. Ilion put se défendre tant que la tristesse régna dans ses murs. Mais c'est un jour d'allégresse que les Troyens introduisirent le cheval au flanc chargé de guerriers. Choisissez aussi le jour où votre belle aura été blessée par une rivale, et cherchez alors les moyens de la venger vous-même. Que le matin, en arrangeant ses cheveux, la suivante excite son ressentiment, qu'elle emploie pour vous servir la voile et les rames, qu'elle lui dise à voix basse et comme si elle partageait son injure. Je doute que vous puissiez user de représailles. Alors qu'elle parle de vous, que ses paroles soient pleines de persuasion et qu'elle vous peigne mourant d'un amour insensé. Pour vous, faites diligence, avant que les vents ne se retirent et ne laissent retomber les voiles. Comme la glace fragile, le courroux d'une belle est de courte durée. Vous me demanderez s'il est utile que vous obteniez d'abord les faveurs de la suivante. C'est, vous dirai-je, courir une grande chance. Au souvenir de vos embrassements, celle-ci redouble de zèle. Celle-là se ralentit. L'une consent à partager votre cœur avec sa maîtresse, et l'autre le veut tout entier. L'événement seul peut résoudre le problème. Supposez qu'elle se prête à vos désirs, mon avis est qu'il faut vous abstenir. Je ne m'aventurerai point au milieu des rochers et des précipices, et sous ma conduite un jeune amant ne doit point s'égarer. Si cependant la suivante, en donnant ou recevant un billet, vous plaît autant par sa grâce que par ses soins empressés, tâchez d'abord de posséder la maîtresse. Vous en viendrez ensuite à la suivante. Ce n'est jamais par cette dernière que vous devez débuter. Je vous avertis seulement, si toutefois vous avez confiance en mon art et si les vents ravisseurs n'emportent pas sur les flots mes paroles, de ne point tenter l'aventure, à moins que vous ne la poussiez à bout. Une fois de moitié dans le crime, la suivante ne vous en trahira pas moins. L'oiseau reste enchaîné à la glu qui captive ses ailes. Le sanglier ne brise point les filets bien tendus. Et le poisson pris à l'hameçon ne peut s'en échapper. Ainsi, n'attaquez que pour triompher et ne vous retirez que vainqueur. Alors, coupable avec vous, elle ne vous trahira point. Alors vous saurez ce que fait, ce que dit votre maîtresse. Mais soyez discret, et si le mystère couvre toujours vos rapports avec la suivante, aucune des démarches de votre belle ne sera ignorée de vous. C'est une erreur que de croire qu'il soit utile aux matelots seuls et aux laboureurs d'interroger le temps. Il ne convient pas d'ensemencer en toute saison un terrain qui peut tromper notre espoir, ni de confier en toute saison un fragile esquif à la mer transparente. De même, tous les instants ne sont pas également propres pour courtiser les belles. Souvent, une tentative réussit mieux quand elle est faite à propos. Soit que vous touchiez à l'anniversaire de la naissance de votre maîtresse, soit que vous voyez approcher les calendes de mars dont Vénus se plaît à prolonger la durée, soit que le cirque brille, orné non pas comme autrefois de simples tableaux, mais des dépouilles des rois. Différez encore. Alors règne le triste hiver. Alors le signe des Pléiades pèse sur la nature. Alors aussi le bélier se plonge dans les flots de la mer. Dans ce moment, n'entreprenez rien. L'imprudent qui est alors se confie à l'océan peut à peine se soustraire à la mort sur les débris de son vaisseau fracassé. Choisissez pour débuter la saison où les plaines funèbres d'Alia furent teintes du sang des Romains. Choisissez encore le septième jour que le juif consacre au repos et aux sacrifices religieux. Soyez d'une superstitieuse exactitude à célébrer la naissance de votre amie. Mais si elle exige de vous quelques présents, tenez ce jour pour un jour néfaste. En vain, vous voudrez l'éviter, elle rendra vos précautions inutiles. Une femme est si habile à s'approprier les richesses de son amant. Le colporteur à la robe traînante la trouvera toujours disposée à acheter. Il étalera devant vous ses marchandises et elle, de son côté, vous priera d'y jeter un coup d'œil, uniquement pour qu'elle juge de votre bon goût. Ensuite, elle vous embrassera et puis vous suppliera de faire quelque emplette. Ceci, dit-elle, suffira pour des années. Aujourd'hui, elle en a le plus grand besoin. Vous ne sauriez lui en faire le cadeau plus à propos. Vous prétexterez en vain que vous n'avez pas d'argent. On vous demandera un billet. Direz-vous que vous ne savez pas écrire? Combien de fois alors, pour vous rançonner, pour subvenir à ses besoins, célébrera-t-elle son jour de naissance? Que ferez-vous quand, chagrine d'une perte mensongère, elle versera des larmes et vous montrera son oreille veuve de sa parure? C'est ainsi qu'elles agissent toutes. Elles vous promettent de rendre ce que vous leur aurez donné, mais une fois qu'elles le tiennent, vous le réclamez en vain. Vous êtes dupe, et l'on ne vous tient aucun compte de vos pertes. 100 bouches seraient insuffisantes pour vous dire toutes les ruses à l'usage de ces femmes. Préparez vos tablettes et sondez le terrain en lançant un billet doux. Que ce message soit le premier interprète de votre amour. Qu'il soit le porteur de tendres compliments et de ces mielleuses paroles ordinaires aux amants. Et, qui que vous soyez, ne rougissez pas d'employer les prières les plus pressantes. Achille, fléchi par les prières de Priam, lui rendit Hector. Une voix suppliante apaise la colère des dieux. Faites des promesses. Les promesses ne ruinent personne. Et le monde est riche en promesses. L'espérance, une fois qu'on y croit, fait gagner bien du temps. Toute trompeuse qu'elle est, cette déesse, on aime à être trompée par elle. Si vous faites un présent, il peut être la cause qu'on vous éconduise. La belle jouirait de vos dons passés et n'aurait rien perdu. Paraissez, au contraire, toujours prête à donner, et ne donnez jamais. Telle un chant stérile trompe souvent l'attente de son maître. Tel le joueur perd toujours dans l'espoir de ne plus perdre. Toujours le sort prêt à lui sourire tente sa main cupide. Le point essentiel et le plus difficile est d'obtenir gratuitement les premières faveurs. La crainte de les voir accordées en pure perte fait qu'elle continuera à vous donner ce qu'elle a déjà donné. Qu'il parte donc ce billet conçu dans les termes les plus tendres, qu'il pressente le cœur de votre maîtresse et qu'il en prépare la voie. quelques caractères tracés sur un fruit trompeur sidipe, et la jeune imprudente, en les lisant, fut prise par ses propres paroles. « Jeune Romain, c'est un avis que je vous donne. Cultivez les belles lettres. Ce n'est pas seulement pour devenir les défenseurs d'un accusé tremblant. La beauté se laisse séduire par une voix éloquente. Elle y applaudit comme le peuple, comme le grave magistrat, comme les sénateurs, élite des citoyens romains. Mais cachez votre talent, qu'on ne lise pas sur votre front toutes les ressources de votre faconde. Évitez dans vos lettres les expressions pédantesques, car à moins d'être sot, qui ne peut faire un aveu à sa maîtresse sur un ton déclamateur? Souvent, une lettre prétentieuse en a fait détester l'auteur. Que vos paroles soient simples, que votre style soit naturel, mais toutefois insinuant, et qu'en vous lisant, on croit vous voir et vous entendre. Si elle refuse votre billet, si elle le renvoie sans le lire, espérez qu'elle le lira plus tard. Ne vous laissez point décourager. » Avec le temps, le taureau rebelle aux joues finit par se soumettre. Avec le temps, le coursier apprend à souffrir le frein qui modère son ardeur. Un anneau de fer s'use par un frottement journalier. Le bec de la charrue s'émousse à force de déchirer la terre. Quoi de plus dur que le rocher, de plus fluide que l'eau? Cependant, l'eau creuse les rochers les plus durs. Persistez donc, et avec le temps vous triompherez de Pénélope elle-même. Il fallut des années pour prendre Troie, mais enfin Troie fut prise. Lorsqu'elle aura lu votre lettre, si elle n'y répond pas, gardez-vous de l'y contraindre. Faites seulement qu'elle continue à lire vos billets. Elle répondra bientôt à ce qu'elle a bien voulu lire. Chaque faveur viendra à son tour et successivement. Peut-être recevrez-vous une réponse peu encourageante par laquelle on vous priera de cesser vos poursuites. Mais elle craint ce qu'elle demande. Ce qu'elle ne vous demande pas, ce qu'elle désire pourtant, c'est que vous n'en fassiez rien. Persistez donc, et bientôt vous serez au comble de vos vœux. Votre maîtresse sort-elle couchée mollement dans sa litière? Abordez-la d'un air réservé. Et pour que des oreilles indiscrètes n'entendent pas vos discours, ayez l'adresse de lui peindre vos feux en termes équivoques. Va-t-elle se promener sous un portique? Vous devez vous y promener avec elle. Tantôt devancez-la, tantôt ralentissez votre marche. Suivez de loin ses pas. N'ayez pas honte, pour vous trouver à ses côtés, de quitter la foule et de passer d'une colonne à l'autre. Que jamais, sans vous, elle n'aille dans tout l'éclat de sa beauté visiter nos théâtres. Là, vous pourrez admirer ses épaules nues, et tout entier à ce spectacle, paraissez n'avoir Dieu que pour elle. Faites parler vos regards, vos gestes. Applaudissez pour lui plaire la danse de l'acteur qui fait le rôle d'une jeune fille. Applaudissez encore plus celui qui joue le rôle de l'amant. Se lève-t-elle? Levez-vous. Reste-t-elle assise? Restez assis, et sachez perdre à son gré votre temps. Renoncez d'ailleurs au plaisir futile de friser vos cheveux, de lisser votre peau avec le mordant de la pierre ponce. Abandonnez ce vain luxe à ces prêtres qui hurlent un chant phrygien en l'honneur de Cybèle. La beauté sans apprêt sied à l'homme. Thésée, sans avoir recours à l'art pour embellir sa chevelure, se fit aimer d'Ariane. Phèdre aima Hippolyte, quoiqu'il fût simple dans sa parure. Adonis, si cher à Vénus, ne se plaisait qu'au milieu des forêts. Aimez la propreté, mais que le hâle du champ de Mars brunisse vos traits, que votre toge soit fraîche et gracieuse, votre langue sans aspérité, et les mailles de vos dents toujours pures. Que votre pied ne s'égare point dans une chaussure démesurée, que vos cheveux mal taillés ne se hérissent pas sur votre tête, mais que leur coupe et celle de votre barbe révèlent un ciseau habile. Que l'ivoire de vos ongles soit toujours poli, que vos narines ne laissent saillir aucun poil, que les exhalaisons de votre haleine ne blessent pas l'odorat et ne rappellent pas l'odeur fétide qui émane du mâle de la chèvre. Abandonnez le reste à une coquette et à ces hommes qui, à la honte de leur sexe, recherchent la faveur des autres hommes. Mais Bacchus appelle son poète, Bacchus, fidèle auxiliaire des amants, et qui brûle lui-même des feux qu'il protège. Ariane errait éperdue sur la plage déserte de l'île de Naxos, toujours battue par les flots. À peine échappée au sommeil, vêtue d'une simple tunique, les pieds nus, la chevelure en désordre et le visage baigné de larmes, elle demandait le cruel Thésée au flot sourd à ses cris. Elle criait et pleurait à la fois, et ses pleurs et ses cris, loin de nuire à sa beauté, la rehaussaient encore. Déjà se frappant le sein d'une main impitoyable. « L'ingrat est-il parti ? » disait-elle. « Que vais-je devenir ?» À ces mots, le bruit des cymbales retentit le long du rivage et le tambour que battent des mains frénétiques réveille les échos. Elle tombe de frayeur. Ses dernières paroles expirent sur ses lèvres et tout son sang affuit de ses veines glacées. Les bacchantes échevelées paraissent d'abord, puis les satyres, légères avant-gardes du dieu. Vient ensuite sur son âne Silène, vieillard toujours ivre, pouvant à peine garder son équilibre et se cramponnant à la crinière de sa monture. Tantôt poursuivant les bacchantes, tantôt poursuivi par elles, inhabile écuyer, il frappe d'une houssine son coursier aux longues oreilles et tombe bientôt le nez en avant. Alors, les satyres de crier « Lève-toi, lève-toi, Persilène !» Mais voici le dieu. Son char couronné de pampres est traîné par des tigres qu'il guide lui-même avec des rênes d'or. Pâle d'effroi, Ariane ne songe plus à Thésée. Ses lèvres sont muettes. Trois fois elle veut fuir, trois fois la frayeur lui en ôte la force. Elle frissonne comme l'épi stérile agité par le vent. Elle tremble comme le frêle roseau du marais. Le dieu lui dit alors, « Bannis toute crainte, tu vois en moi un amant plus fidèle que Thésée. Fille de Minos, tu seras l'épouse de Bacchus. » Nouvel astre du ciel, que le ciel soit ta récompense et que l'étoile crétoise serve de phare aux marins égarés sur les flots. » Il dit, et sautant de son char dont les tigres auraient pu effrayer Ariane, il pose le pied sur cette plage qui semble s'incliner sous son pas et enlève Ariane dans ses bras. Comment eût-elle résisté ? Un dieu n'est-il pas tout-puissant ? Le cortège de Bacchus fait entendre les chants d'Hyménée. L'écho répète « Hévoé, Hévoé !» Et sur la couche sacrée, le dieu et sa nouvelle épouse consomment le sacrifice nuptial. Lorsque vous serez autour d'une table chargée des présents de Bacchus et que sur le même lit votre ami aura pris place à vos côtés, songez au dieu du vin, à ses fêtes nocturnes, et priez-le qu'il préserve votre raison de l'influence de sa liqueur traîtresse. Vous pourrez alors vous permettre à l'égard de votre ami mille de ces petites confidences un peu hardies, mais habilement gazées, qu'elle interprétera sans peine, et avec un peu de vin répandu, vous tracerez de délicats emblèmes d'amour qui lui feront connaître que vous portez ses chaînes. Que vos yeux respirant toute l'ardeur de la passion restent fixés sur les siens. Un regard muet a souvent toute l'éloquence de la voix et des paroles. Sachez vous emparer de la coupe que viennent d'effleurer ses lèvres. Buvez du côté où elle aura bu. Chaque mets que ses doigts auront touché, touchez-le. Et qu'en même temps, votre main cherche à rencontrer la sienne. Tâchez encore de plaire à l'époux de votre maîtresse. Faites-vous-en un ami, qui ne vous sera pas des moins utiles. Si l'on tire au sort la royauté du festin et qu'elle vous échoue, cédez-la lui. Ôtez votre couronne pour en orner sa tête. Qu'il soit votre inférieur ou votre égal, n'importe. Ne prenez rien qu'après lui. Faites-lui les honneurs de la conversation. Il est si facile de tromper impunément sous le voile mensonger de l'amitié. Et cependant, avouons-le, ce moyen n'en est pas moins un crime. De là, une fois en possession de la confiance du mari, on empiète souvent sur les privilèges qu'il a conférés et on croit bientôt devoir outrepasser largement son mandat. Je veux vous en donner la juste mesure de boire. Que votre esprit et vos pieds soient toujours à même de remplir leur office. Évitez surtout les querelles provoquées par le vin. Et n'ayez pas la main trop prompte à frapper. Eurytion mourut sottement pour avoir bu outre mesure. La table et le vin ne doivent enfanter que la gaieté. Vous avez de la voix, chantez, des mouvements gracieux, dansez. Ne négligez aucun de vos moyens de séduction. Si une véritable ivresse nuit, on gagne souvent à la feindre. Que votre langue embarrassée semble incapable d'articuler un son de sorte que, s'il vous échappe une parole ou une expression équivoque, la faute en retombera sur le vin. Faites des souhaits pour votre belle, faites-en pour celui qui doit partager sa couche. Mais au fond du cœur, maudissez le mari. Quand la table est enlevée et que les convives s'éloignent, mettez à profit pour avancer vos affaires le mouvement de la foule, la disposition des lieux. Mêlez-vous parmi les convives. Approchez-vous doucement de votre ami. Que vos mains caressent sa taille. Que votre pied aille trouver le sien. Mais voici le moment de lui parler. Loin d'ici, agresse de pudeur. Vénus est la fortune seconde l'audacieux. Ne comptez pas sur moi pour vous enseigner les règnes de l'éloquence. Sachez seulement commencer, et l'éloquence vous viendra sans que vous y songiez. Il s'agit bien de jouer l'amoureux. Que vos paroles peignent donc la flamme qui vous ronge, et mettez tout en usage pour persuader votre belle. Le difficile pour vous ne sera pas d'être cru. Toute femme se juge digne d'être aimée, et la plus laide se trouve des attraits. Combien de fois d'ailleurs, celui qui feint d'aimer finit par aimer sérieusement et passe de la feinte à la réalité. Jeune fille, soyez moins sévère, et d'un amant qui voulait vous tromper, vous ferez un amant véritable. Vous pouvez encore, par d'adroite flatterie, chercher à vous insinuer furtivement dans son cœur, comme l'onde envahissante couvre insensiblement la rive qui la dominait. Vantez sans cesse la beauté de son visage, la nuance de ses cheveux, la finesse de ses doigts, la petitesse de ses pieds. La plus chaste prend goût à s'entendre louer, et le soin de ses attraits est une occupation chère même à la Vierge modeste. Sans cela, pourquoi Junon et Pallas seraient-elles encore honteuses du jugement dont les forêts de Phrygie ont été témoins? L'oiseau de Junon, si vous louez son plumage, l'étale avec orgueil. Si vous le regardez avec indifférence, il en cache les trésors. Dans la course des chars, le coursier rapide aime qu'on applaudisse sa crinière flottante et bien peignée et sa superbe encolure. Point de promesse timide. Les promesses sont l'écueil où échouent les jeunes filles. Prenez tous les dieux à témoin de votre bonne foi. Jupiter, du haut de son trône, rit des parjures d'un amant et charge les vendéolies de les emporter sur leurs ailes. Lorsqu'il trompait Junon, Jupiter jurait par le Styx. Maintenant, le dieu sourit à ceux qui l'imitent. Il importe qu'il y ait des dieux comme il importe d'y croire. Renouvelons donc toujours sur leurs autels antiques l'offrande du vin et de l'encens. Ils ne sont point ensevelis dans un repos égoïste et semblable au sommeil. Vivez dans l'innocence, ils sont là qui veillent sur vous. Rendez le dépôt qui vous a été confié. Observez religieusement les lois. Bannissez la fraude. Ayez les mains pures de sang humain. Si vous êtes sage, au contraire, ne trompez que les jeunes filles. Cette faute est toujours impunie, et votre bonne foi n'en sera que plus respectable. Trompez des trompeuses, presque toutes le sont. Qu'elles soient donc prises au piège que leurs mains ont tendu. L'Égypte, dit-on, manqua de pluie pour féconder les terres, qui languirent, desséchées pendant 9 années. Thrasius vint alors trouver Busiris et lui annonça que le sang d'un hôte étranger, versé sur les autels de Jupiter, pouvait seul apaiser le dieu. « Tu seras donc, répond Busiris, la première victime offerte à Jupiter. Hôte de l'Égypte, c'est toi qui vas lui donner de l'eau. » Phalaris fit brûler dans les flancs de son taureau d'airain, Périlus, malheureux inventeur de cet horrible instrument de supplice, qu'il arrosa le premier de son sang. Phalaris et Busiris eurent raison, car il n'est pas de loi plus équitable que celle qui condamne l'inventeur d'un supplice à périr par sa propre invention. C'est donc à bon endroit que vous opposez le parjure au parjure, que les femmes ne s'en prennent qu'à elles de la trahison dont elles ont donné l'exemple. Les larmes aussi sont utiles en amour. Elles amolliraient le diamant. Faites, s'il est possible, que votre ami voie vos joues humides. Si les pleurs font défaut, car ils ne viennent pas toujours à notre gré, mouillez vos doigts et portez-les à vos yeux. Quel amant inexpérimenté ignore combien un baiser donne de poids aux tendres paroles. Votre belle s'y refuse ? Prenez-le malgré elle. Peut-être résistera-t-elle d'abord et vous traitera-t-elle de téméraire, mais son désir est de succomber. Craignez seulement qu'un baiser pris maladroitement sur ses lèvres délicates ne la blesse et qu'elle n'ait à se plaindre de votre brutalité. Après ce premier triomphe, celui qui ne va pas plus avant mérite de perdre ce qu'il a déjà gagné. Combien, en effet, ce baiser le rapprocherait de l'entier accomplissement de ses vœux. C'est une maladresse stupide et non pas la pudeur qui l'a retenue. C'eût été lui faire violence, dira-t-il. Soit, mais cette violence plaît aux femmes. Leur bonheur est de se voir arracher ce qu'elles aiment à donner. Toute femme prise de force dans l'emportement de la passion se réjouit de ce larcin. Nul présent n'est plus doux à son cœur. Mais si la femme qu'on pouvait prendre d'assaut sorte intacte du combat, en vain la joie est peinte sur son visage, la tristesse est dans son cœur. Phébé et sa sœur furent violées, mais les deux ravisseurs n'en étaient pas moins chers à leurs victimes. Une histoire bien connue et qui mérite toutefois d'être racontée est celle de la fille du roi de Syros, à laquelle Achille surprit ses faveurs. Déjà la déesse qui, sur le mont Ida, avait si légitimement vaincu ses deux rivales, s'était montrée reconnaissante de la préférence de Paris. Déjà une bru était venue d'un pays lointain dans la famille de Priam, et les murs d'Ilion renfermaient l'épouse du roi de Sparte. Cependant, tous les guerriers grecs juraient de venger l'affront fait à son mari, car cet affront d'un seul devenait commun à tous. Achille cachait son sexe sous une robe traînante, subterfuge honteux s'il eût alors cédé aux prières de sa mère. « Descendant des Haques, que fais-tu ? Filer la laine, est-ce une occupation digne de toi ? Tu seras illustre, mais en cultivant un autre art de Pallas. Que font dans tes mains ces corbeilles ? C'est un bouclier qu'elle doit tenir. Et cette main, destinée à terrasser Hector, est-elle faite pour porter une quenouille ? Qu'elle jette au loin ses fuseaux et brandisse la lance de Pélias. » Un jour, le même lit avait réuni par hasard Achille et la princesse de Syros, lorsque la violence qu'elle subit lui révéla tout à coup le sexe de sa compagne. Elle dut céder à la force, au moins il faut le croire. Mais elle ne fut pas fâchée que la force triomphât. « Restez, disait-elle souvent à Achille en le voyant hâter son départ, car il avait quitté le fuseau pour les armes. Où donc est ici la violence ? Pourquoi, Déidamie, chercher à retenir par ta voix caressante l'auteur de la honte ? Si par un sentiment de pudeur, la femme ne fait pas les avances, elle souffre volontiers que l'homme s'empare de ce rôle. Celui-là compte beaucoup trop sur les grâces de son visage, qui se flatte qu'une belle fera la première demande. C'est à lui de commencer, à lui de supplier, et d'adresser ses douces prières qu'elle accueillera sans peine. Demandez pour obtenir. Elle n'en exige pas davantage. Contez-lui la cause et l'origine de votre amour. Jupiter, près des héroïnes qu'il aima, était bien suppliant. Malgré sa toute-puissance, en vit-il aucune venir à lui la première ? Si cependant vos prières ne servaient qu'à enfler son orgueil, cessez vos poursuites et rétrogradez. Bien des femmes désirent le plaisir qui les fuit et haïssent l'amant qui les presse. Montrez donc moins d'empressement et vous serez moins importun. Sachez encore déguiser votre espoir d'un prochain triomphe, que l'amour s'insinue sous les dehors de l'amitié. J'ai vu plus d'une cruelle succomber à ce manège et son ami devenir bientôt son amant. Une peau blanche ne sied point au marin. L'eau de la mer, les rayons du soleil, doivent avoir bruni son teint. Elle ne sied pas non plus au laboureur qui passe ses jours à fatiguer la terre du soc et du râteau. Pour vous aussi qui, dans la lutte, briguez la couronne d'olivier, la blancheur de la peau serait une honte. Qu'un amant soit pâle, la pâleur est le symptôme de l'amour. C'est la couleur qui lui convient, quoique plusieurs estiment le contraire. Orion, la pâleur sur son front, errait dans les bois à la poursuite de l'Irisée. pâle était Daphnis, épris d'une naïade cruelle. Que votre maigreur trahisse encore les tourments de votre âme. Ne rougissez pas même de couvrir vos beaux cheveux du voile des malades. L'éveil, les chagrins et la douleur nés d'un violent amour délabrent le corps d'un jeune homme. Excitez la pitié pour réussir, et qu'en vous voyant on puisse dire « Il aime ». Maintenant, blâmerai-je la confusion qui se fait tous les jours du juste et de l'injuste, ou plutôt, vous la conseillerais-je ? L'amitié et la bonne foi ne sont plus que de vains noms. Hélas, je le sais, il est peu sûr de faire à son ami l'éloge de la femme qu'on aime. Il croit à vos éloges et va soudain sur vos brisées. Mais Patrocle, dira-t-on, respecta la couche d'Achille. Près de Pirithous, la vertu de Phèdre ne courut aucun danger. Pylade fut pour Hermione ce qu'Apollon fut pour Minerve. Ce que furent pour toi, ô Hélène, Castor et Pollux. Se flatter de trouver encore de pareils prodiges, c'est vouloir recueillir des fruits sur la stérile bruyère et chercher du miel au sein des fleuves. Le crime a tant d'attraits. Chacun ne songe qu'à ses plaisirs, et le chagrin des autres en accroît la vivacité. Oh, honte ! Ce n'est pas son ennemi qu'un amant doit craindre. Si vous voulez être en sûreté, fuyez ceux qui vous sont le plus dévoués. Défiez-vous d'un parent, d'un frère, de l'ami le plus cher. Ce sont eux qui doivent vous inspirer de véritables alarmes. J'allais finir, mais comme parmi les belles et les mille caractères différents, il est aussi mille manières de les subjuguer. Le même terrain n'est pas propre à toutes sortes de fruits. L'un convient aux vignes, cet autre aux oliviers, celui-ci aux froments. Autant de visages, autant d'esprits divers. L'homme habile doit, pour s'accommoder à tous les caractères, imiter ce Protée, qui tantôt se changeait en eau fugitive, tantôt en arbre, puis en lion, ou bien en sanglier. Il est des poissons qu'on perce à coups de javelot, d'autres qui se prennent à l'hameçon, d'autres enfin qui tombent et restent captifs dans les filets du pêcheur. Choisissez vos moyens de conquête suivant l'âge de celle que vous courtisez. Une vieille sait voir de loin les embûches qu'on lui tend. Si vous paraissez trop instruit près d'une novice, trop entreprenant près d'une prude, l'une et l'autre se tiendront sur leur garde. Voilà pourquoi la femme qui a craint de se livrer aux caresses d'un galant homme souvent s'abandonna à celle d'un amant. Une partie de ma tâche est accomplie. Une autre me reste encore. Ici, jetons l'ancre et laissons reposer notre esquif.